Collective, l'émission qui explore les questions féministes, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7. T'as jamais
vu une femme. Les hommes, ils sont en mode, ils sifflent la fin de la récré. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les femmes, elles s'en foutent de la fin de la récré, elles sont en train de bordéliser tous les cours. Ils peuvent continuer à siffler la récré, ça va être violent, il va y avoir des moments difficiles, mais ça ne changera pas grand-chose.
Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire suite à l'émission précédente qui dressait un état des lieux des violences gynécologiques en Ardèche. Aujourd'hui, nous sortons du constat et nous vous proposons de parler de pistes qui existent pour faire face à ces situations de violences gynécologiques et obstétriques. Nous allons donc commencer par écouter un entretien avec Lucille qui a participé à un stage d'autodéfense et qui va nous en dire plus sur le sujet. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Moi j'avais du mal à me représenter, à me faire une idée. Qu'est-ce qu'un stage d'autodéfense féministe sur les violences gynéco et obstétriques ?
L'autodéfense féministe, ça consiste à apprendre des outils donc, qui peuvent être d'autodéfense physique ou d'autodéfense verbale pour arriver à mieux poser ses limites et à sortir de ce qu'on peut décrire parfois comme un état de sidération quand il nous arrive une situation qui n'est pas OK pour nous, mais sur laquelle on n'arrive pas vraiment à réagir sur le coup. Et donc l'autodéfense féministe, en fait, c'est d'abord un changement de posture intérieure, dans le fait de se sentir légitime à réagir, avoir confiance dans notre intégrité, et le fait que voilà, certaines limites ne doivent pas être dépassées pour notre propre bien-être. Donc d'abord, en fait, faire ce changement de posture intérieure qu'on pourrait décrire par le fait de se remettre au centre, et à partir de cette posture, apprendre différents outils d'autodéfense verbale ou physique pour arriver à mieux se défendre et faire respecter ses besoins.
Quelles sont les raisons qui t'ont conduite à participer à ce stage ?
Alors moi j'ai participé à 2 stages, d'abord un stage d'autodéfense féministe plutôt général et ensuite un stage plus précis sur les violences gynécologiques ou en consultation médicale. Et la raison pour laquelle j'ai eu envie de participer, c'est que c'est quelque chose qui me fait très peur, le fait de un jour potentiellement pouvoir vivre des violences gynéco au cours de ma vie. Pour l'instant, j'estime avoir de la chance, j'en ai jamais vécu à titre personnel, mais on entend de plus en plus de témoignages assez hardcore sur le sujet, et donc je me dis que potentiellement ça pourrait un jour m'arriver, d'autant plus que le sentiment de sidération que j'évoquais un peu plus tôt, je l'ai vraiment de façon assez palpable quand je suis chez le médecin ou chez le gynéco, même en ayant fait, en ayant amorcé une réflexion sur l'autodéfense féministe dans ma vie en général, sur comment me défendre si on m'attaque dans la rue ou au boulot ou trucs comme ça. Quand j'arrive chez le médecin ou autre, je me retrouve un peu blackout un peu quoi. Et donc je me suis dit voilà, si à un moment il y a un truc qui se passe et qui n'est pas OK, comment je peux arriver à sortir de cette sidération pour réagir ? En fait, quand on a été éduquée et socialisée en tant que femme dans la société actuelle, on a une plus forte propension à rentrer en empathie avec d'autres personnes. Et ces mécanismes, ils se mettent aussi en place dans le cadre d'une consultation médicale. Par exemple, moi, quand je suis chez le médecin, en fait, je pense avant tout au confort du praticien. Je me dis « mince, il est en retard ». Je vais essayer de lui faciliter la tâche. Je vois qu'en plus, il est stressé. Ce serait plus simple si je ne parlais pas de ça ou ce serait plus simple si j'acceptais totalement le protocole qu'il me propose sans faire de vagues, quoi. Et en fait, par ce mécanisme-là, on se fait passer au second plan. Et c'est pour ça que l'autodéfense féministe, c'est vraiment le fait de se dire « bah non, moi aussi, en fait, j'ai de la valeur. Moi aussi, mes besoins comptent. » Et du coup, je me remets au centre.
Est-ce que tu peux nous parler du déroulé des ateliers ou nous donner quelques exemples de ce qui s'y passe pour qu'on puisse avoir une idée plus précise de la manière dont on peut s'outiller face à ces violences. Et quels sont les outils que ce stage t'a fournis ?
Alors, pour le stage, plus précisément sur les violences gynéco ou en consultation médicale, le stage, il avait la particularité d'être animé à la fois par une formatrice en autodéfense féministe et par une médecin. Donc le contenu, il était assez spécifique. Bon, ça semble un peu évident de dire que dans le cadre d'une consultation, généralement, c'est pas forcément là où on va avoir besoin de l'autodéfense physique. Donc ça se concentre davantage sur l'autodéfense verbale. Donc concrètement, en fait, on va s'entraîner avec des situations sûrement qui sont déjà arrivées à des personnes en consultation. Par exemple, on vient pour se faire avorter et on nous fait une remarque sur le fait que c'est la troisième fois qu'on se fait avorter dans notre vie. Des remarques sur notre poids, sur notre genre, ça peut être plein de choses. Et donc on va nous apprendre des techniques d'autodéfense verbale que je ne vais pas dévoiler pour vous donner envie d'aller en faire un. Et on va s'entraîner sur ces techniques-là. Et sinon, la médecin, elle apportait pas mal de contenu à propos de nos droits. La relation de soins, elle est aussi déséquilibrée parce que le praticien ou la praticienne a la maîtrise du cadre, du lieu dans lequel ça se déroule. Voilà, c'est un endroit qui est confortable pour lui et qui l'est pas forcément pour nous. C'est lui qui a les connaissances. Et en fait, un moyen de rétablir potentiellement un peu plus d'équilibre dans cette relation, c'est de lui montrer que nous-mêmes, on est bien informés. Donc on peut nous-mêmes déjà nous s'informer sur notre santé, notamment par exemple sur la gynécologie, il y a tout ce qui touche à l'autogynéco, qui fait qu'on peut arriver avec plus de connaissances, plus de vocabulaire pour pouvoir s'adresser aux praticiens. Mais connaître ses droits, c'est aussi important parce que ça peut nous permettre de les réaffirmer à un moment où potentiellement ils peuvent être bafoués. Par exemple, je peux citer le droit à l'information, le droit au consentement éclairé. Donc ça veut dire que c'est nous à la fin qui prenons la décision sur notre santé à partir des conseils du ou de la médecin. Mais c'est pas lui ou elle qui décide de quelle est la meilleure méthode pour nous. Voilà, il y a aussi le droit à la liberté de choix. Et il y en a 14 en tout. C'est des droits fondamentaux qu'on peut trouver dans la Charte européenne du droit des patients et qui est un texte vraiment officiel auquel sont soumis tous les praticiens de soins.
J'ai l'impression qu'une des raisons qui fait que des fois on n'ose pas mettre fin à une situation compliquée ou se faire entendre, c'est le risque de se retrouver sans soins et de façon assez longue quand on sait que l'Ardèche est quand même un désert médical et que ça va demander X temps pour réavoir à nouveau un rendez-vous. Est-ce que avec les techniques de réponse ou les outils qu'on apprend pendant le stage d'autodéfense, ça risque pas de nous mettre dans cette situation ?
Oui, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on dit aussi pour l'autodéfense physique, pour décourager en fait les femmes de se défendre, que soi-disant le prix à payer en fait serait plus cher. Alors qu'il y a des études qui ont été faites sur ce sujet qui montrent que non, en fait, on a toujours intérêt à se défendre en tant que femme. Et l'autodéfense verbale, c'est particulièrement adapté pour ça, parce qu'elle permet des fois de reposer le cadre sans mettre fin à la relation. Arriver à éclaircir un malentendu ou à poser des conditions. Sans pour autant partir en claquant la porte et se retrouver effectivement dans le risque de manquer de soins. Et ça dans les déserts médicaux, mais je pense aussi dans certaines grandes villes pour tout ce qui est rendez-vous spécialisé, quoi. Moi, je connais pas très bien, par exemple, la question des violences pour les personnes qui ont un parcours de transition, mais on sait qu'il y a très peu de praticiens et qu'on est en fait dépendant de ce praticien pour pouvoir avancer dans son parcours. Et donc on subit un peu potentiellement cette relation de soins. Donc je ne sais pas si ces techniques, elles seraient adaptées dans ce contexte-là, mais dans plein de contextes, quand on a besoin de voir un spécialiste, On peut attendre 6 mois pour un rendez-vous, d'où le fait de pouvoir gérer au mieux ce rendez-vous et la relation qu'on a avec le praticien en question.
D'autant qu'on sait que sur les raisons qui nous poussent à avoir besoin de rencontrer un praticien ou une praticienne, il y a des fois où on ne peut pas ajourner, en fait. Il faut que ça se fasse dans l'urgence parce qu'on est tenu par des délais. C'est le cas pour avoir recours à un avortement, par exemple.
Est-ce que tu peux nous dire ce que ce stage t'a apporté par rapport, comme réponse par rapport à tes interrogations et tes appréhensions ?
Bah, je pense que mes appréhensions, elles venaient pas mal d'une peur de l'inconnu. Et du coup, ce que ça m'a apporté, ce stage, c'est une forme de sécurisation par le fait de savoir comment doit se dérouler une consultation médicale type et qu'est-ce qui sort finalement du cadre de ce que ça devrait être. Et à partir de la connaissance de comment ça devrait se dérouler, ce qui m'aide beaucoup maintenant, c'est le fait de préparer mes rendez-vous médicaux, un peu comme je prépare mes entretiens d'embauche. J'imagine les questions qu'on peut se poser, j'imagine les questions que moi j'ai envie de poser. Et du coup, de cette façon-là, je me fais moins surprendre par ce qui pourrait se passer. Je peux aussi imaginer à l'avance de quoi j'ai besoin pour que ma consultation se passe bien, où est-ce que sont mes limites. Je peux donner un exemple pour que ce soit plus concret. Y a beaucoup de femmes qui sont pas forcément à l'aise chez le ou la gynéco ou sage-femme pour écarter les jambes et les mettre sur l'étrier pour la consultation. Et en fait, moi, j'ai découvert à ce stage que on peut tout à fait demander à ne pas le faire et demander d'autres types d'examens, par exemple l'examen à l'anglaise où on est allongé sur le côté avec les jambes légèrement ouvertes. Ou même le fait d'écarter les jambes, mais sans se mettre sur cette espèce de siège super froid et qui, moi, me met pas forcément à l'aise. Ça peut être aussi de réfléchir à qu'est-ce qui peut m'aider à me recentrer ou me détendre pendant la consultation. Par exemple, amener sur soi, un petit objet qu'on va tenir dans la main qui va nous rappeler... La posture qu'on avait envie d'avoir pendant cet entretien. Ça peut être amener une feuille sur laquelle on a noté ses questions pour pas se faire perdre et pas se faire embarquer par le déroulé du praticien qui va nous faire oublier nos questions. Ça peut être aussi travailler sur sa posture non verbale, la façon dont on va s'asseoir sur la chaise, la façon dont on va poser sa voix, de façon à se sentir à l'aise et à avoir vraiment cette impression de prendre toute sa place pendant la consultation. Il y a autre chose qui peut être aidant pour certaines personnes, c'est le fait de réfléchir en amont à des personnes de confiance, potentiellement prendre un temps avec elles pour leur en parler et voir si ces personnes seraient OK pour nous accompagner pour un rendez-vous médical. Parce que des fois... on est amené à accepter certaines choses pour nous qu'on n'accepterait pas pour d'autres personnes. Et moi, je ne ressens pas spécialement ce besoin de me faire accompagner par une personne, mais des fois, j'imagine un peu dans ma tête que je m'accompagne moi-même et que du coup, je ne me laisserai pas tomber, comme je ne laisserai pas tomber ma meilleure pote dans une situation qui serait inconfortable pour elle.
Merci Lucille.
Merci Lucille. I will sleep when I'm dead. A revolution's waking up in my head. You wanna listen to what a real girl said? It's a woman's world. Boy, stop you right there. Keep trying to shake me, but I really don't care. You wanna listen to what a real girl said? It's a woman's world. Nous avons contacté par téléphone Ariane, qui est médecin généraliste et qui intervient dans des stages d'autodéfense en consultation médicale avec l'association Sista.
Donc, je m'appelle Ariane Salomé-Jeunesse, je suis médecin généraliste. Donc, du coup, en 2019, j'ai fait ma thèse en médecine sur les pratiques collectives d'auto-observation gynécologique. Du coup, dans ma vie, j'étais amenée à croiser donc Nino Langlois-Chevrier, qui est formatrice en en autodéfense féministe au sein de l'association Sista. Et puis, à force de parler, de partager, ben, on a eu envie de construire un stage d'autodéfense féministe en consultation médicale ou gynéo, ou gynéco. Donc, ce stage, il est né avec plusieurs constats dans nos vies personnelles ou professionnelles, des difficultés à avoir accès à des soins de qualité sur le plan psychique, sur le plan gynéco, sur le plan physique. Toutes les libérations de la parole qu'il y a eu sur les violences gynécologiques et obstétricales et les violences médicales avec les hashtags qu'il y a eu, paye ton utérus, paye ton gynéco, stop VOG, là, stop violence obstétrique et gynécologique, pour restaurer le lien de confiance avec les usagères de soins. Et aussi, et avant tout, pour les usagères de soins, où en fait l'émergence de ces récits sur Internet dans des espaces individuels, ça peut amener de la peur importante, voire de la panique, la peur de consulter, le manque de confiance dans les soignants, de la colère, et que finalement ça amène les personnes à renoncer à leurs soins, c'est-à-dire à pas aller vers les soins dont il ou elle aurait besoin, parce que les difficultés envisagées sont trop dures à surmonter, quoi.
Du coup, on avait envie de t'interroger aussi, du coup, sur la dernière partie de ce que vous proposez en stage d'autodéfense, c'est-à-dire après les violences gynéco, que faire une fois que ça s'est déjà passé. Du coup, de te demander quel conseil tu donnerais toi à une personne qui estime avoir subi des violences gynécologiques.
Le avant et le pendant, nous, le stage, il est principalement basé là-dessus. Et quand c'est fait, en effet, c'est fait. On change de phase, quoi. En fait, ça ouvre plusieurs portes et ça ouvre un autre monde. Ça ouvre que faire, comment vivre avec, les thématiques de la justice et les thématiques de la réparation. Donc, ça va être, nous, d'abord, on se dit, d'abord, il y a une phase, c'est par et pour moi-même, qu'est-ce que je peux faire ? La deuxième phase, c'est est-ce qu'il y a des démarches de réparation sans passer par le contentieux qui existe ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Une troisième phase qui serait comment rallier des actions collectives ? Et une quatrième phase qui serait les phases contentieuses, c'est-à-dire le tribunal. Donc, d'abord, c'est essayer de répondre à quels objectifs essayer de se concentrer sur ce qui se passe. Donc, il y a quand ça se déroule, faut se mettre en sécurité. J'ai pas à subir. Je suis légitime. Ça, c'est des phrases qu'il faut se rappeler tout le temps. C'est prendre son temps et regarder ce qui se passe pour moi. Vraiment, la question de prendre son temps, elle va revenir tout le temps. Ensuite, ça peut être donc sur le moment de demander des explications. Essayer de désamorcer, demander aux professionnels de justifier, d'expliciter, dissiper les malentendus. C'est pas toujours facile à faire. Sur le moment aussi, c'est bien de recueillir des preuves, demander une facture s'il y a un dépassement d'honoraires, faire des traces écrites, sonores, photos, vidéos, chercher des témoignages. Et après, il y a le après. Donc d'abord, c'est se centrer. Première phase du après, c'est se centrer. Ne pas rester seul et se mettre dans le confort et en sécurité juste après. Ça, c'est important à faire. Et aussi, directement, faire un récit à chaud. Moi, je conseillerais vraiment ça, voire tenir un journal. Il y a ce que la violence fait, donc faut pas minimiser ça. Il peut y avoir un impact sur le coup, puis un impact secondaire. Il y a aussi que dénoncer la violence, c'est exposant. Donc, on peut avoir des surprises, à la fois pour les réactions de ses proches, mais aussi pour les réactions du monde autour, comment les gens réagissent. Ensuite, un autre temps important, c'est de distinguer les temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a le temps pour l'épreuve, pour la récolte des preuves. On va dire ça, c'est dans les 15 premiers jours, on va dire. Il faut récolter les preuves, faire son récit, aller dans un centre d'accueil des victimes s'il y a eu des actes graves et faire une première évaluation psychologique, par exemple. Ensuite, il y a le temps pour les intensités émotionnelles. Donc là, la personne elle va être traversée par des intensités émotionnelles qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction de ce qui s'est passé. Et ça dure au moins un mois. Il peut y avoir, dans le premier mois, moi, je déconseille d'agir à ce moment-là, parce qu'en fait, il se passe plein de choses. Et du coup, c'est bien de prendre le temps que ça existe dans la vie. Et après, il y a prendre le temps pour estimer l'impact que ça a dans la vie. Donc, comment je vais le digérer, quel retentissement ça va sur moi, à quelle vitesse je récupère, quel événement antérieur de ma vie ça réveille. Et donc ça, moi, je dirais que ça peut durer entre... Ben, ça commence dès le début et puis ça va jusqu'à 6 mois à peu près, 4 mois, 6 mois. Et après, il y a un temps pour la reconnaissance sociale, juridique, médiatique. Moi, je pense que dans les 15 premiers jours, par exemple, c'est pas évident de mettre en place des actions parce que on peut être dans la confusion. Ensuite, une autre chose, c'est prendre la décision, quoi. Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes besoins? Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer, de raconter, de comprendre, de partager mon récit? Est-ce que j'ai besoin de soutien psychologique? Est-ce que j'ai besoin d'analyse, d'analyser ce qui se passe? Est-ce que j'ai besoin de faire une réclamation? Est-ce que j'ai besoin d'être reconnu sur le plan juridique, sur le plan de la loi? Est-ce que je veux être reconnu sur le plan médiatique? Est-ce que je veux que ça sache médiatiquement? Ou est-ce que je veux avoir une réparation? Donc ça peut être symbolique dans la relation avec le professionnel. Ça peut être juridique ou ça peut être financier. Ça, c'est bien de savoir, d'essayer de prendre le temps de cerner ce dont on a besoin. Ensuite, si on a envie d'agir, c'est bien de se poser la question ouvertement. Est-ce que j'ai envie d'agir? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'abord, et moi là encore, hein, je mets des conseils, on va dire assez, de manière assez, enfin, je pense que c'est vraiment important. D'abord, je cherche du soutien. Donc, quand il y a des problèmes graves de santé ou des problèmes graves de violence, c'est les personnes que j'aime et qui m'aiment qui vont pouvoir le mieux m'accompagner. C'est le rôle des proches. C'est bien de leur demander et de l'aide. On est légitime pour demander de l'aide à ses proches. On peut avoir des mauvaises surprises, mais c'est important de le faire. Si on n'a pas d'aide avec ses proches, il faut chercher des pairs, des gens comme nous qui ont vécu des choses similaires, puisque c'est des violences systémiques. Donc, en fait, on n'est jamais seul à vivre ça. Et c'est bien de chercher ça. Si on est trop impacté, faut trouver le soutien d'un professionnel dont c'est le métier. Parce que les proches, ils pourront pas tout faire. Et les mondes de pairs, ils pourront pas tout faire non plus. Si on est trop impacté, faut chercher du soutien professionnel. Ça fait aussi des témoins extérieurs de la violence.
Du coup, il y a un peu cette partie plus sur la personne, sur comment on se reconstruit, et une autre partie qui serait plus peut-être politique ou institutionnelle et plus collective.
Ouais, tout à fait. Là, moi, j'ai vraiment fait la phase de d'abord par et pour moi-même. En fait, on n'a pas de victoire quand on n'est pas soutenu. On peut pas réussir quand on est seul. Enfin, moi, je ne crois pas à cette légende. En fait, le monde est pas fait pour accueillir les violences gynécologiques obstétricales au jour d'aujourd'hui. C'est en train de changer, mais pour l'instant, c'est difficile. Donc, du coup, d'abord, faut penser à soi. Et il faut se préparer au fait que ça va pas forcément être simple. Et cerner ses forces, quoi. Ensuite, il y a plein de choses possibles. Donc, ça, c'est les démarches sociales. C'est la deuxième partie. C'est... Par exemple, on peut se faire accompagner par des associations. Donc, dans les associations qui existent, celles qui sont très intéressantes, il y a le CIAN, le collectif interassociatif autour de la naissance, donc qui est principalement sur les violences obstétricales et qui est très compétent, qui a un guide juridique très bien fait. Il y a le collectif féministe contre le viol. Donc ça, c'est une association, pareil, très compétente, qui récolte plus de 20% des appels pour des agressions sexuelles subies perpétrés par des professionnels de santé. Et après, il y a d'autres numéros plus classiques. Il y a AIDS ou ACT UP qui peut agir pour les personnes qui sont concernées par le VIH, les hépatites, le travail du sexe. Il y a le 3919 qui est le numéro vert et gratuit pour les violences faites aux femmes, qui n'est pas spécifique sur les violences médicales. Il y a le planning familial qui est en train de développer des choses autour de ça. Dans les choses moins spécifiques, où on va avoir un accompagnement, on va dire, moins politisé et plus large, il y a le numéro Santé Info Droit, qui est la ligne de France Asso Santé, des associations d'usagers agréées du système de santé, qui aident à faire valoir les droits des personnes. Il y a des forums où on peut trouver de l'information. Donc là, principalement, le collectif Stop Violence Obstétricale et Gynécologique. Et il y a aussi des guides juridiques qui existent par ailleurs. Ensuite, on peut aussi rallier des actions collectives. Donc ça, c'est très intéressant pour se regrouper, politiser son vécu, le partager, trouver du soutien et de l'entraide. Après, il faut se poser la question de est-ce que c'est judicieux pour moi de porter plainte? C'est-à-dire, est-ce que la plainte, elle est intéressante? Dans quoi ça m'emmène? Est-ce que ça peut aboutir? Donc, comme pour les autres violences sexistes, il y a très peu de condamnations. Donc, faut vraiment mesurer ses forces. C'est tout l'intérêt des phases d'avant et de la première phase, de savoir vers quoi on va et savoir si oui ou non on veut y aller. Donc, en gros, il existe 3 procédures. Il y a le pénal, basé sur le code pénal, le civil, basé sur le code civil, et la procédure ordinale, basée sur le code de déontologie. Ces informations, moi, je les ai prises sur les guides juridiques établis par le CIAN, là, le collectif interassociatif autour de la naissance, sur le guide juridique de la Fondation des femmes et sur le blog de la juriste Marie-Hélène Lahaye, Marie Akoucha. En fait, il faut se retrouver en groupe, il faut se faire du, faut se raconter des histoires. Et toutes ces démarches de réparation, là, ça aide vraiment à reprendre du pouvoir sur sa vie, à créer du lien, à créer du réseau pour se défendre, quoi. Et exister à fond, exister tel qu'on est, quoi. Avec toute la vitalité que ça crée d'être, d'être vivant, de voir le monde tel qu'il est, en fait.
Et pour notre agenda local, une info à vous communiquer. Le samedi 13 mai à Aubenas aura lieu la Journée des Fiertés. Elle est organisée par et pour des personnes minorisées par notre société, discriminées de par leur identité de genre, leur orientation sexuelle, des personnes en situation de handicap exclues par cette société validiste, et sont invitées à marcher avec elles toutes les personnes qui se sentent rejetées, exclues, discriminées, et celles qui les soutiennent. Le samedi 13 mai à 17h, départ place du Champ de Mars, à côté de la Poste, à Aubenas. Got a lot to say, no time to play. I'll be standing tall while I watch you fall. If you didn't know, I fight like a girl. I fight like a girl. If you didn't know, I fight like a girl. I fight like a girl.
Merci à Lucille pour son témoignage et à Ariane pour son engagement et ses réflexions. Vous avez pu entendre dans l'émission des extraits de la chanson « Fight Like a Girl » de Zolita.
En attendant, on vous souhaite un bon mois de mai. Et puis, on retourne en manif.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi. Elle dit, mais la révolution fera le ménage.